Culture Club, une émission présentée par Victor Loupan.
Bonjour à tous, le chroniqueur fétiche, c'est Stéphane Covio. Bonjour Stéphane.
Bonjour
vous voilà promu fétiche.
Enfin, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, c'est vrai, vous êtes modeste. Mais aujourd'hui, on va parler effectivement d'un peintre que je... Enfin, on va parler un peu avec Stéphane Covio avant l'émission, que je considère... Enfin, qui pour moi, c'est peut-être mon peintre préféré de tous les temps, un peintre absolument étonnant, dont une exposition unique se déroule en ce moment même au Grand Palais. Il s'agit du Greco, El Greco ou Le Greco, qui est un peintre espagnol, mais en fait peintre espagnol d'origine crétoise, qui a révolutionné la peinture de son temps et de notre temps aussi d'ailleurs, parce que j'ai regardé après les chroniques dans différents journaux et tout le monde trouve ça incroyable qu'effectivement qu'une telle esthétique, qu'une telle force du trait, qu'un tel éloignement, disons, de la joliesse de l'époque a pu se faire par ce type venu d'ailleurs, venu d'un pays grec, dans cette Espagne. De cette Espagne, de la contre-réforme, qui était bien sûr c'est la fameuse époque de l'Espagne de l'Inquisition, etc. Et il arrive avec une esthétique complètement différente, avec un trait de pinceau absolument remarquable. Enfin, absolument, je trouve ça ahurissant. Dites-moi donc, Stéphane Covio, est-ce que vous partagez, moi, chaque fois, enfin, cet effarement devant l'unicité de cet artiste, en fait.
Oui, c'est vrai que quand on voit Greco, on voit comment dire, on voit quelque chose qui ressemble à peu d'autres choses, bien que, on verra dans le cours de l'émission que on peut clairement quand même dessiner une généalogie de son œuvre avec des antécédents chez d'autres peintres, une filiation dans laquelle il se trouve quand même.
Parlons-en tout de suite, parce que bon, à l'origine, on va le dire, c'est un artiste crétois, il s'appelle Deominikos Theotokopoulos, il est né en 1541, donc il est vraiment il est né dans la première moitié du XVIe siècle. Il y peint des icônes tout à fait traditionnelles, sous fond doré, etc., etc. Et puis, il fait un voyage pour un de ses clients, grec aussi, enfin, comme lui, enfin, grec, enfin, de langue grecque, on va dire, qui habite à Venise. Et là, il découvre la... C'est à ça que vous faites allusion. Il découvre la peinture vénitienne, il découvre la peinture de la Renaissance, etc., etc. C'est ça, hein.
En fait, il naît en Crète, dans une île qui est vénitienne, gouvernée par Venise depuis 1204.
C'est ça.
Donc, Venise est très présente. Il y a une aristocratie vénitienne aussi présente en Crète. Et sa formation est double, en fait. Dès son jeune âge, il reçoit une formation de peintre à la Byzantine, donc avec la peinture qui ressemble à de la peinture d'icône. Et puis, il est déjà ouvert dès sa jeunesse à la peinture que nous, on va qualifier de moderne, occidentale, c'est-à-dire réaliste, avec la perspective, des choses comme ça. Bien que dans son parcours grec, au départ, effectivement, il est d'abord orienté vers la peinture d'icône. Et l'une des grandes surprises aussi concernant ce peintre, c'est la distance entre sa formation et cette peinture d'icône, où on reproduit des prototypes fixes et avec un mode présentation très particulier, la distance entre ça et ce qui va devenir son style après, avec une originalité, une créativité, une invention d'iconographie assez hors du commun.
Et il faut dire aussi que c'est une exposition qui se déroule donc au Grand Palais et dont il manque quand même un certain nombre d'œuvres, notamment celle du Prado. Le Prado a refusé apparemment de prêter ses œuvres. Par contre, les musées américains, où il y en a beaucoup, l'ont fait. D'autres musées, d'ailleurs, d'autres musées italiens, espagnols, l'ont fait aussi. Donc on a 70 œuvres. C'est un 71,
oh,
peut-être.
Oui, ça va. Hein. Oui, les auditeurs se rassurent. Il y a ce qu'il faut sur place. Il y a de très belles choses.
Très, très belles choses, vraiment.
Il y a aussi des choses inférieures, ça m'a marqué. Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, il y a aussi des œuvres où on voit comment dire, une certaine gaucherie, j'ai envie de dire, de gaucherie de Greco au moment où il est à Venise, où il démarre un nouveau style qui n'est pas le sien. Et on voit à un moment donné émerger le grand Greco absolument fabuleux, qui pour moi est vraiment présent dans plusieurs œuvres de l'exposition. Des portraits incroyables, des morceaux d'abstraction de toute beauté, des morceaux de peinture pure chez lui, et puis des œuvres extrêmement abouties et inventives au niveau de l'iconographie.
Et quand vous dites qu'il descend quand même de certains artistes, vous pensez à qui notamment
Alors, donc tout à l'heure, vous évoquiez son séjour à Venise. Il est arrivé à Venise dans les années 60, il a dû y passer 3 ans. Il a peut-être été élève de Titien, certains disent disciple de Titien.
Il a vu du Titien, oui.
Et clairement, une référence majeure pour lui, c'est Titien, la couleur de Titien. Mais en fait, le peintre dont il est, à mon avis, le plus tributaire, et ça crève l'écran dans la plupart de ses œuvres, c'est Tintoret. Il a le sens du mouvement de Tintoret, l'originalité, l'inventivité qu'on a déjà chez Tintoret.
Mais c'est pas le même trait.
C'est pas tout à fait le même trait.
Mais
c'est pas le même, mais c'est quand même. Il a en commun la matière et la gestuelle. Une gestuelle quand même très vive, très soutenue. Même si c'est pas la même, on voit quand même le lien, me semble-t-il, avec les jeux de formes de Tintoret, les audaces dans les mouvements des corps. Tout est extrêmement animé. Moi, je le situerais vraiment dans cette filiation-là, clairement.
Et quelles sont les œuvres qui vous ont le plus marqué lors de cette exposition ?
Ouais, bah alors ça, je ne vais faire qu'une réponse assez frustrante, puisque dans le temps imparti, je ne vais pas toutes vous les proposer. Je vous ai dit qu'il y a des très beaux portraits. L'œuvre finale de l'exposition, l'ouverture du cinquième sceau est absolument incroyable. Mais ce qui a retenu le plus mon attention, je vais vous dire, et qui en continue à faire travailler mon esprit, c'est les 4 tableaux qui sont présentés sur le thème du Christ qui chasse les marchands du temple. C'est vraiment intéressant parce qu'on a une œuvre qui date de 1570, donc c'est la dernière année de son séjour vénitien, ou peut-être la première année de son séjour romain, parce qu'il va à Rome après Venise. Il y a une deuxième version qui daterait de 1575, on n'a pas de certitude absolue. Puis après, on a une version qui est à la National Gallery de Londres qui est de 1600 et on a une dernière version qui est de l'église Saint-Ginès à Madrid qui est de 1609. Et on voit vraiment l'évolution de la construction de sa toile et des éléments qui sont abandonnés, des éléments qui interviennent, qui sont nouveaux, une manière de peindre qui évolue. On pourrait faire quasiment de ces 4 tableaux l'objet d'une exposition. Le premier tableau, celui qui est à Washington, c'est un tableau qui est un rectangle de format horizontal. Ça se passe dans un intérieur, c'est dans le temple. Et le tableau se divise vraiment en deux. Vous avez une moitié gauche qui est en fait les 2 tiers gauche du tableau et puis un tiers qui est très différent à droite. À droite, vous avez une architecture qui part vers le fond de l'image avec un point de fuite qui est situé de manière très audacieuse vers l'extrême droite du tableau. Et alors, pour le coup, c'est très tintoresque. Et vous avez quelques personnages qui arrivent, une femme avec un enfant, 2 hommes qui arrivent avec des offrandes. Il y a l'autel qui est là, il y a pas mal de vide. Et puis tout ça entre en contraste très très fort avec la partie gauche du tableau, donc qui sont les 2 autres tiers, où vous avez le Christ debout face à un homme qu'il menace d'un fouet. Cet homme est penché vers la gauche et en fait à la gauche du Christ, quand on regarde le tableau, c'est-à-dire à notre gauche, en fait, vous avez les gens qui s'enfuient avec à précipitation, effrayés par le geste du Christ. Et on voit des offrandes qui sont à droite et gauche, par terre, des oiseaux, des lapins, des œufs cassés, etc.
Les vêtements du Christ sont assez incroyables.
Alors, les vêtements du Christ, oui, très remarquables, avec rose et bleu assez intense. Et vous avez juste à droite, dans le tableau à droite du Christ, vous avez quelques personnages qui ne sont pas du tout chassés par le Christ, ceux-là qui sont visiblement essentiellement des hommes, qui regardent le Christ et qui s'interrogent sur ce que le Christ est en train de faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, par exemple, ces quelques personnages qui sont là, vont rester quasiment les mêmes tout au long de l'histoire. C'est-à-dire jusqu'à la dernière composition, celle de 1614, ce morceau-là du tableau va rester quasiment le même. Et d'ailleurs, dans ces personnages, il y a un homme jeune, debout, qui a la main posée sur la poitrine, que l'on pourrait identifier à Jean, ou en tout cas à un jeune homme qui semble déjà dans une situation de dévotion vis-à-vis du personnage du Christ qui est là.
Il a beaucoup peint le Christ. Hein.
Alors évidemment, il a beaucoup peint le Christ, puisque c'est essentiellement un peintre de sujets religieux. Enfin, il y a 2 tendances dans sa peinture. C'est la peinture religieuse, parce qu'il y a une très grosse commande de peinture religieuse en Espagne, puisque à partir du moment où il habite à Tolède, c'est l'essentiel de la commande.
C'est la
contre-réforme. Il y a des fondations d'ordre, il y a des constructions de couvents. Vous avez aussi le domaine du portrait. Je reviens sur le Christ chassé du temple. Puis on arrive je vais vous passer les détails, mais on arrive à la dernière composition. Et on voit que il a recentré sa composition. Au lieu d'avoir deux parties, on n'en a plus qu'une. La partie, ce qui occupait avant les deux tiers gauche du tableau, ben c'est maintenant un carré, quasiment, avec le Christ clairement au centre de la composition. Et ce qui est une chose assez remarquable qu'on voit dans beaucoup de tableaux de Gréco, c'est qu'il y a le haut et le bas. Le bas, c'est les personnages. Le haut, c'est de l'architecture et c'est vide. Enfin, je dis vide, presque vide, parce qu'au centre de cette architecture, vous avez, sur un fond gris de pierre, l'Arche d'Alliance qui est dorée et qui est juste au-dessus du personnage du Christ. Et à l'extrême gauche de cette partie haute, vous avez une statue dans le temple qui est un homme nu, tourné vers le centre, une main sur le cœur, désignant soit l'Arche d'Alliance, soit désignant le Christ qui est en dessous. Et la question se pose de qui est cet homme. Alors, l'hypothèse la plus vraisemblable, à mon avis, mais ça reste assez ouvert, c'est que ce serait David. David, dans sa relation à l'Arche d'Alliance, David, alors c'est pas David qui a construit le temple, c'est son fils Salomon, mais quand même une relation très forte à Dieu. Au centre, vous avez le Christ et l'Arche. Et puis, sous David, il y a un bas-relief qui a été sculpté, qui est présent d'ailleurs dans la version d'avant, qui est à Londres. Et dans ce bas-relief, on voit Adam et Ève chassés du temple. Et on fait vraiment un parallèle dans le tableau entre Adam et Ève chassés du temple et Jésus qui chasse les marchands du temple. C'est là qu'on voit comment il associe des épisodes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il donne, comment dire, ça crée du sens de mettre en lien ces éléments. On dit aussi la purification du temple. Ces marchands qui avaient fait de ce temple un lieu, un repère de brigands et de voleurs, ça redevient la maison du Père. Mais il y a plus que ça. Vous avez dans cette dernière composition de Saint Ginès un enfant qui apparaît en bas à gauche. Et vous savez qu'il y a plusieurs versions de l'évangile de Jésus chassant les marchands du temple. Il y en a un qui se situe, enfin il y en a plusieurs qui se situent juste après l'entrée dans Jérusalem. Et les enfants crient que Jésus est le fils de David. Et les pharisiens, les responsables du temple, reprochent à Jésus de laisser les enfants crier cela. Et on a vraiment aussi l'idée de la fin de l'ère du sacrifice, la fin, comment dire, d'un certain type de sacrifice, avec une offrande maintenant qui est le Christ lui-même. Il est aussi le temple nouveau. Enfin voilà, il y a une foule d'éléments qui viennent s'associer à l'image et dont on voit qu'elles nourrissent l'iconographie de Gréco. Et j'ajoute en plus, là, on n'a parlé que du sujet, de la thématique, de la manière originale qu'il a eu de mettre ensemble les éléments pour leur donner du sens, un sens fort. Il y a aussi la peinture. La peinture qui se déploie dans la version de Saint Ginès n'a plus rien à voir avec celle du premier tableau qu'il a peint, qui j'ai envie de dire, de la sous-peinture vénitienne. C'est du sous-tintoré au début. Et là, ça devient quelque chose d'unique, avec des morceaux de liberté. Il y a des étoffes, il y a des roses orangées, cuivre, il y a des choses invraisemblables, une liberté du pinceau, une espèce de maîtrise. C'est un homme qui est arrivé à une telle maturité, à une telle liberté dans l'usage du pinceau que, bah, il peut faire n'importe quoi, vous voyez, il y a un instinct prodigieux et tout ce qui sort de son pinceau est beau et fort et puissant. Enfin, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, le tableau de Saint Ginès.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans les sujets religieux, c'est qu'il a fait plusieurs Pietà. Hein, et donc, il y a une petite Pietà, assez petite, hein, je pense qu'elle fait 30 cm sur 20, sur panneau de bois, et qui est d'une modernité, enfin, encore une fois, j'emploie le mot modernité, j'ai honte en même temps, mais on dirait un tableau, je sais pas quoi, du 19e siècle, enfin, avec qui a l'air presque inachevé. Le ciel, les cieux sont peints effectivement comme une sorte de peinture abstraite. Le corps du Christ, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un peu une certaine, oui, une certaine peinture du 19e siècle, un peu étrange, un peu bizarre. Puis il y a une autre Pietà qui est un peu plus loin. Ça, c'est un tableau qui date des années 70-75, et puis l'autre 10 ans plus tard, qui est tout à fait différente, qui est plus dans le style du Gréco, qu'on connaît. Mais malgré tout, quand on voit ces visages, quand on voit le traitement des matières, quand on voit effectivement les fonds qui sont vraiment presque de la peinture abstraite, vous avez raison de le dire, on se demande comment les gens de l'époque ont pu accepter cette esthétique.
Ouais, je pense que d'abord ils l'ont accepté pour beaucoup d'entre eux, hein, parce qu'il a eu énormément de commandes.
Évidemment, il a eu beaucoup de succès.
Apprécié, hein. Demandé.
Il a peint des églises entières, apparemment.
Oui, il a eu vraiment, il n'a pas manqué de commandes. Je pense qu'il y a un œil de l'époque qui est beaucoup plus habitué que nous ne le croyons aujourd'hui à de l'audace. Il faut voir aussi qu'il arrive dans une époque qui est l'époque du maniérisme. Il arrive, c'est un dernier représentant du maniérisme.
Quels sont les autres ?
Ben, alors là, je pensais à Venise, hein, essentiellement, au Tintoret et autres derrière. Et puis aussi, il faut voir qu'il arrive en Espagne, en 1577 à peu près, auréolé du fait d'avoir travaillé avec Titien, peut-être, en tout cas c'est ce qu'on dit, en tout cas de venir de Venise. Et en Espagne, à l'époque, depuis Charles Quint et puis avec le règne de Philippe II, il y a un très grand amour de la peinture vénitienne. Titien est le maître absolu. Vous savez que si vous voulez étudier Titien, il faut aller non pas à Venise, mais au Prado ou à l'Escorial. C'est là qu'il y a des collections les plus intéressantes de Titien. Donc il arrive avec déjà précédé par un goût fort pour l'école vénitienne, et d'une certaine manière Gréco c'est la suite de l'école vénitienne. Moi, dans mon armoire, les dossiers Gréco sont dans le prolongement de Titien, Véronèse, Tintoret, clairement, c'est cette filiation là. Vous évoquiez la réception de Gréco, il y a une question quand même qui se pose. Une œuvre majeure de sa carrière, et qui est la grande commande qu'il a eue pour un retable pour la chapelle de l'Escorial. Donc, quand il arrive à Tolède en 1577, Tolède est l'ancienne capitale, ça reste une ville absolument essentielle, c'est la capitale religieuse de l'Espagne, c'est là que...
C'est drôle parce qu'il n'est pas accepté à Madrid, il va à Tolède, il n'arrive pas à s'installer à Madrid.
Alors, au départ, simplement, il va là où il a des relations, tout simplement. Et il a des relations à Tolède. Il a un grand ami dont le père est doyen des chanoines de la cathédrale de Tolède. Et c'est une puissance phénoménale dans Tolède. Donc il s'installe là. Il a une première commande très importante pour la sacristie de la cathédrale de Tolède, qui est l'Espolio. C'est le moment où le Christ va se voir ôter sa tunique. Alors c'est un tableau qui est resté à Tolède, on ne le déplace pas. C'est une très grande œuvre, absolument magnifique, rutilante de couleurs. Et quand vous parliez de la modernité, c'est vrai, quand on voit ça, on se dit c'est incroyable. Elle est présente dans l'exposition sous forme au minimum de une version de petite taille, une version d'atelier qui permet de la situer et de l'observer. Et puis, il va tout de suite avoir d'autres commandes sur Tolède. Il va avoir une commande royale qui va plaire, une petite commande royale qui est dans l'exposition, le songe de Philippe II, ça va plaire à Philippe II, et il va avoir la grosse commande, un retable pour l'Escorial. L'Escorial qui vient d'être achevé, la chapelle de l'Escorial est achevée, et on va lui demander un martyr de Saint-Maurice. Et la grande question, c'est pourquoi le martyr de Saint-Maurice n'a pas plu ? Parce qu'effectivement, le martyr de Saint-Maurice n'a pas plu. C'est un immense tableau dans lequel on voit essentiellement un groupe de soldats qui discutent entre eux, en fait. Et puis on comprend par des scènes secondaires qui sont en bas à gauche et au fond à gauche que ces soldats discutent entre eux parce qu'ils vont décider de ne pas tuer des habitants de Marigny, en Suisse, qui se sont convertis au christianisme. On est à l'époque romaine avec je ne sais plus quel empereur qui persécute les chrétiens. Ce tableau est absolument splendide, original. Alors quand on le voit, on se dit, bah oui, Philippe II et les Espagnols n'ont pas aimé ce style très, très audacieux. Et pourtant, si, ils vont l'aimer. Et en fait, ça ne doit pas être une question de style qui va rebuter les commanditaires. Mais on pense que c'est une question d'iconographie. Une des théories, c'est qu'il n'aurait pas mis suffisamment en valeur le martyr de Saint-Maurice. Il a mis en valeur la décision prise par par Saint-Maurice et ses compagnons d'armes d'aller au martyr, en fait, en épargnant la vie des chrétiens. Bon, voilà quelques éléments sur son début en Espagne.
Dans l'exposition, c'est peut-être une des clés de la compréhension. Et encore une fois, j'insiste auprès de nos auditeurs, parce qu'il faut aller voir. Il faut aller voir le Gréco au Grand Palais. D'ailleurs, je pense que le Grand Palais va fermer bientôt, en plus, pour des travaux, pour de longs travaux.
Déjà, là, on est dans des espaces qui ne sont pas les espaces habituels d'exposition.
C'est une sorte de couloir, comme ça, oui. Enfin, on voit très bien. Hein.
Oui, on voit très bien.
On voit très bien. Mais là, ils insistent sur le fait que le Gréco, en quelque sorte, réinvente le sacré. C'est très étrange. Hein. Et c'est vrai, il y a cette fameuse toile représentant Saint-Dominique en prière, qui est une sorte de simplification, en quelque sorte. Bon, le visage... Mais ensuite, regardez, vous avez parlé, regardez le ciel, quoi. C'est pas un ciel. Personne n'a jamais vu un ciel comme ça. Non. C'est un ciel mystique. C'est un ciel. Non, mais c'est vrai. C'est pas le ciel espagnol habituel.
Non, pas du tout. Alors les ciels de Gréco, c'est quelque chose. Hein. Dans ce tableau-là,
on dirait des aurores boréales ou quelque chose. C'est très étrange. Enfin.
C'est de la splendide peinture.
Ah ouais, splendide.
C'est un morceau de délectation. La manière dont les blancs, les bleus se mélangent, les gris la manière dont le pinceau caresse la toile. Et vous parliez du ciel, mais on peut parler aussi des rochers qui sont en dessous.
Il y a un crucifix devant lequel Saint Dominique prie. Hein.
Oui. Et donc sous le crucifix, il y a deux rochers qui sont des splendeurs d'association de couleurs, des orangés, des ocres. Et il y a plusieurs tableaux comme ça dans lesquels on est frappé par des qu'on pourrait appeler des morceaux de peinture pure. Je pense qu'un amateur de peinture, ne peut pas ne pas être sensible à cet art de poser la couleur et de l'associer, de la mélanger. Enfin, c'est très très beau. Et puis, alors, il y a d'autres ciels qui sont du tout des morceaux de peinture pure, mais des morceaux d'artificialité complet. On a l'impression que ce sont des blocs de polystyrène qui forment un décor de théâtre. Il y a des libertés incroyables dans ces ciels qui font que, d'ailleurs, certaines croix entourées de deux personnages paraissent être des compositions symétriques. Mais en réalité, les jeux des nuages et des formes célestes crée une espèce d'animation et de dramatisation des compositions. Il y a un travail chez lui assez incroyable, presque surréaliste d'ailleurs hein, sur certains.
C'est vrai. Absolument.
Est-ce que vous avez vu les deux tableaux ?
Certains tableaux, on dirait qu'ils auraient pu être peints par Manet ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est étonnant.
Alors,
très
étonnant. Pour la touche et pour la couleur par endroit, oui. Pour l'invention. Moi, je pense au Christ au Jardin des Oliviers. Il y a deux tableaux du Christ à Gethsemane, absolument sidérants, où le Christ est devant une espèce de rocher qui ressemble à une espèce de tente. On pourrait imaginer que c'est même une gueule de monstre ouverte derrière lui. C'est assez effrayant, puisqu'en plus, dans le ciel, on voit la lune qui est à moitié masquée par un nuage qui la voile et qui passe comme une paupière. Et ce qui donne l'impression d'avoir un œil dans les nuages, l'impression qu'il y a une espèce de monstre qui est la nuit qui le menace. Et évidemment, ça, je ne sais pas s'il l'a pensé, mais en tout cas, ça fonctionne bien avec le sujet, puisque évidemment, il y a l'imminence de la mort. Il va rentrer dans la passion dans un instant. Alors la passion est évoquée par des jeux de branches cassées en bas à gauche du tableau, clairement, qui renvoient au thème de la croix. Il structure son espace par des jeux de formes incroyables. Notamment, toujours dans ce même tableau, vous avez les apôtres, les trois apôtres qui attendent et qui s'endorment, qui sont comme lovés dans une forme ovale, étonnante, au-dessus de laquelle l'ange apparaît pour s'adresser au Christ. Vous parliez des nuages tout à l'heure, mais derrière cet ange, vous avez des nuages qui ressemblent à des espèces d'icebergs incroyables. Enfin bon, on est dans le fantastique.
Absolument. Puis il est déjà une soixantaine d'années, je pense, ou presque 60 ans, quand il peint ce Christ en croix énorme, hein, qui fait 2 mètres de haut. Et là aussi, il y a des cieux très dramaturgiques. Enfin, c'est clair que c'est une... Mais le corps du Christ est très stylisé, hein. Vraiment très stylisé. Ouais. Ça n'est pas du tout les muscles traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Enfin,
alors pour le coup, on est vraiment là stylisé. Dans quelque chose d'assez dont il n'est pas l'initiateur et qui commence, j'ai envie de dire, à partir de 1515 avec le maniérisme, hein, une prise de liberté. Le maniérisme, c'est une notion très difficile à définir. Elle est multiforme. Parfois, on dit c'est la liberté dans la règle. En tout cas, c'est une prise de distance avec les canons. D'une certaine harmonie avec les canons du classicisme. Et là-dedans, il y a les déformations.
Et les canons de la Renaissance, moi, je dirais. Hein.
Et les canons de la première Renaissance, En fait, le maniérisme, on considère que c'est encore la Renaissance. D'une certaine manière,
le Gréco, c'est fini. Hein.
Non. En fait, c'est différentes périodes. D'une certaine manière, le Gréco peut être considéré comme le dernier artiste de la Renaissance. Et après lui, c'est c'est le siècle d'or de la peinture espagnole avec Velázquez, avec un caravagisme, avec un réalisme, un retour au réel. beaucoup plus important.
Mais la Renaissance, c'était vraiment l'étude, c'est le retour aux traditions de la Grèce antique avec des muscles bien dessinés, etc.
Oui,
etc.
Ça,
et c'est la première question de ça.
Oui, hein. Mais c'est la première partie de la Renaissance que vous évoquez, parce que pensez à Michel-Ange qui connaît l'anatomie comme personne et qui pourtant, dans ses fresques de Rome ou d'ailleurs, va vous faire des corps absolument invraisemblables dans leurs proportions.
Oui, parce que certains disent qu'il ne peignait pas très bien. Ça, c'est une autre histoire. Michel-Ange peintre, ça pose tout un problème. Mais Michel-Ange sculpteur, regardez, c'est de l'anatomie. Hein.
Eh ben, si vous prenez l'esclave révolté du Louvre, hein, on voit bien qu'il maîtrise parfaitement, mais qu'il prend toutes les libertés qu'il veut avec la chose.
Voilà, c'est il faut. Merci beaucoup Stéphane Kovio. Il faut absolument voir cette exposition. C'est une des plus belles choses qu'on puisse voir à Paris et partout ailleurs dans le monde. L'exposition Le Greco, consacrée au génie crétois et espagnol. Le Greco, c'est unique. Ça n'a jamais eu lieu à Paris. Il faut y aller. C'est au Grand Palais. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain.